Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Eureka!
Excepté si vous nous écoutez depuis un centre naturiste, il ne vous viendrait pas à l'idée de sortir de chez vous sans avoir enfilé des habits. Tous les jours, ou presque, nous recouvrons nos corps. Dans de nombreux textes fondateurs, de la Bible à Gilgamesh, le passage aux vêtements est présenté comme l'une des étapes majeures qui marque, pour l'humanité, le passage de l'état de nature à la civilisation. Quand a donc eu lieu ce moment de bascule? Quelle était la garde-robe de nos ancêtres hominidés? Et à partir de quand le vêtement est-il devenu un fait social total? Vêtements plus jamais nus, c'est notre invention du jour, une invention prête à porter. Bienvenue dans Eureka! Et pour revenir sur l'origine des premiers habits, nous sommes en ligne avec Sandrine Bonnardin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheure à l'université Nice-Côte d'Azur et maître de conférences en archéologie de la préhistoire, spécialisée sur le néolithique. Et avec nous également, en direct des studios de France Culture, Fabienne Médard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en archéologie préhistorique, spécialiste des matériaux organiques et des textiles anciens, responsable de l'association Anatex, laboratoire d'analyse. Pour commencer, je vous propose une archive de 1963 de la radio-télévision française sur une des inventions les plus importantes de l'histoire, l'aiguille.
Nos ancêtres étaient, paraît-il, vêtus de peau de bête. Nous pouvons imaginer facilement que cette façon de se vêtir n'était ni élégante ni confortable, en un mot, pas très fonctionnelle. Les bêtes se faisant plus rares, encore fallait-il les tuer, la coquetterie aidant les hommes. Et je pense surtout aux femmes, recherchèrent un matériau plus facile à travailler, à assembler, d'origine végétale évidemment. L'évolution vers des formes plus rationnelles se fit aussi. De la tunique simple, on arriva à des pièces de tissu plus ou moins ajustées au corps, d'où nécessité d'assemblage. Des boyaux d'animaux aux lianes et aux fibres végétales, des épines, os, arêtes de poissons. Les moyens d'assemblage évoluèrent probablement en même temps. Nous connaissons la difficulté que l'on éprouve si l'on veut passer un fil à travers du tissu, même après avoir percé ce tissu. D'où découle tout naturellement la fonction aiguille, qui est de percer le tissu et de loger un fil en même temps.
On vient de l'entendre dans cette archive, et c'est une image que l'on a tous en tête. Fabienne Médard, est-ce que nos ancêtres hominidés étaient bien vêtus de peau de bête ?
Hominidés, je ne sais pas. Moi, je vais remonter seulement au paléolithique supérieur. Et en effet, il y a de fortes chances qu'ils aient été vêtus avec des peaux. Voilà.
Sandrine Bonnardin.
Je confirme tout à fait, puisque les découvertes d'outils ayant permis de transformer et d'assembler des peaux remontent bien au paléolithique, c'est-à-dire à une époque autour de 45 000 ans à peu près, avant notre époque actuelle. Et ce sont des découvertes asiatiques, en fait, qui ont révélé ces aiguilles permettant d'assembler les différentes peaux de bêtes. Alors, nous n'avons pas de plus anciens documents archéologiques pour l'instant. Et voilà, il s'agit des uniques témoignages découverts à ce jour dans le monde.
Là, vous évoquez en effet une aiguille vieille de 45 000 ans, c'est bien ça ?
Tout à fait. Ce sont de petites aiguilles en os, très très fines, aussi fines que nos aiguilles en métal actuelles. Elle porte un chat à partir duquel donc on pouvait insérer la cordelette, la ficelle, et c'était des objets tout à fait efficaces pour assembler des peaux animales préalablement perforées sûrement par de petits poinçons, on l'imagine. Mais parfaitement efficace, aucun problème.
C'est une aiguille hein, qui nous vient de Denisovin dans le sud de la Sibérie.
Exactement, tout à fait. Pour l'instant, c'est le plus ancien témoignage et a priori, selon les chercheurs, il s'agirait d'une plus ou moins de la région dans le monde où aurait été inventé en fait cet instrument.
Donc,
excusez-moi de vous.
Non, je vous en prie, c'est moi qui.
En Europe, les témoignages d'aiguilles à chat sont beaucoup plus récents que ça. Hein. Ils remontent à 20-25 000 ans à peu près. Ce sont des aiguilles en os également, Mais effectivement, le témoignage le plus ancien, c'est bien en Asie, actuellement, autour de 45 000 ans, ouais, tout à fait.
Oui, donc l'apparition du genre humain aurait lieu il y a environ 7 millions d'années. Et donc ce serait Denisova, l'homme de Denisova, qui aurait été donc le premier hominidé à se vêtir.
Non.
Non. Dites-nous tout.
Non. Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est effectivement Sandrine le dit, c'est la première évidence. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Simplement, nous, en archéologie, on ne peut interpréter que ce qu'on trouve. Donc.
Et c'est toute la difficulté. C'est pas parce qu'il n'y a pas de traces que ça n'existe pas.
Exactement. Donc voilà, c'est formidable déjà de remonter jusqu'à ces 45 000 ans, quoi.
Et c'est d'autant plus difficile que le textile, les peaux, le vêtement, ce sont des matériaux qui en soi résistent mal aux archives temporelles.
Tout dépend des sols, effectivement, permafrost, glacier, on l'a vu avec Ötzi pour le néolithique. Voilà, il y a quand même des contextes assez particuliers où c'est conservé, mais c'est vrai que dans la grande majorité, nous n'avons que des traces indirectes.
Oui, c'est ça, Fabienne Médard, je me tourne aussi vers vous. Comment est-ce qu'on étudie les vêtements de la préhistoire puisque les peaux de bêtes ne se fossilisent pas?
Alors. Bon, peau de bête, textile, milieu de conservation peut-être différent aussi. Paléolithique, plutôt effectivement peau et fourrure. Néolithique sans doute aussi, puis textile. Donc voilà, on a des milieux plus ou moins favorables à la conservation. Pour ce qui est du paléolithique, Sandrine, tu ne me démentiras pas. L'épreuve, effectivement, aiguille à chat, épreuve indirecte de parure, probablement oui. Cousu sur des vêtements en peau.
Oui, tout à fait.
Je passe évidemment tout ce qui est peinture, ocre, etc., qui devait également orner, que sais-je, les cheveux, les vêtements, dont il ne reste rien, de fait, puisqu'on n'a plus le support.
Sandrine Bonnardin.
Oui.
Et sur ces archives fossiles.
Alors, effectivement, au paléolithique, on voit se déployer un petit début de panoplie, sûrement de vêtements, dont on retrouve seulement les éléments durs, notamment effectivement des petites choses brodées sur les vêtements. Ces petites choses, ce sont des coquilles. Dans un premier temps, ce sont les premiers objets que l'on a cousus sur les vêtements. Des petites coquilles percées que les hommes sont allés ramasser sur les rivages des mers. Ou au bord des estuaires, ou dans des gîtes où ces coquilles se sont fossilisées depuis des milliers d'années. Et les hommes les ont patiemment perforées une à une pour les broder directement sur les vêtements en peau, donc plus probablement paléolithique. Et voilà, donc ça constitue effectivement un autre témoignage indirect de vêtements portés par les individus. Car ces petits éléments, en fait, sont retrouvés dans le meilleur des cas dans des sépultures, si bien en place encore sur le squelette que l'on peut, imaginer, mais c'est de l'ordre de l'hypothèse, c'est pour ça que j'emploie le mot imaginer, mais on peut imaginer plus ou moins le vêtement qui était attaché à ces objets.
Et alors on imagine quoi plus précisément justement de ces vêtements et de ces coquillages qui sont brodés, comme vous le dites, hein, de façon assez jolie, comme le négatif du vêtement?
Tout à fait. Alors en fait, c'est de l'ordre de l'hypothèse, hein, toujours, mais on a retrouvé effectivement des sépultures avec des traces, on va dire, peut-être de capuches, voilà, portées par les individus, ou de châles entourant la tête en tout cas, puisqu'on a retrouvé des rangées de petites coquilles en place encore, comme si elles n'avaient pas bougé depuis des millénaires, en rangées parallèles, constituant de jolis décors entourant toute la tête. Et puis aussi de tels décors autour des bras, autour des coudes, sur les jambes, au niveau des genoux et même au niveau des pieds. Si bien que les archéologues ont fait l'hypothèse que déjà des paléolithiques supérieurs, les gens portaient des sortes de mocassins brodés. Alors, pantalon, je n'y crois pas tellement, mais en tout cas quelque chose qui recouvrait bien sûr le bas du corps. qui était donc muni aussi de décors de petites coquilles perforées. Et puis, on y reviendra peut-être, mais pas seulement des petites coquilles perforées, parce que, en fait, les hommes vont se mettre aussi à transformer d'autres matières, l'os, l'ivoire de mammouth, et même la pierre, et surtout, à partir du néolithique, beaucoup la pierre. Et donc, ça va constituer autant de motifs différents, autant de raisons de fabriquer des décors chatoyants, en faisant varier les formes, en faisant varier les couleurs. Donc, voilà, c'est un monde extrêmement riche, en fait.
Fabienne Médard, sur ces coquillages et ce vêtement en négatif.
Oui, non, pendant que Sandrine parlait, je pensais aux dents perforées aussi, qui peuvent aussi être des éléments de décor. Comme on le voit d'ailleurs sur les costumes amérindiens, indiens des plaines, où on a quelquefois des petites croches décoratives sur le costume en peau. Aussi, voilà, effectivement, les coiffes et tout ça. Moi, j'aimerais juste, alors c'est vrai que ça décale un peu le débat, mais j'aimerais juste parler un peu de cette période qui, chez nous, en tout cas en Europe occidentale, est une période très froide. Et donc, la dimension climatique, on en parle beaucoup en ce moment, évidemment. Donc, voilà, on est en période glaciaire, donc les hommes s'habillent vraisemblablement et très, très logiquement avec des peaux et des fourrures qu'ils ornent. L'aiguillage dans notre zone géographique, effectivement, les plus anciennes datent du Solutréen, 27 000 avant, plus ou moins, servent à assembler des pièces de vêtements. Et je voulais juste rendre attentif que les coutures, même si on n'a pas retrouvé les éléments, devaient être absolument fines et très bien fermées, parce que en période glaciaire, un vêtement mal assemblé, c'est juste mortel.
Oui, ben un petit coup de vent.
Voilà, un petit coup de vent et c'est le rhume.
D'où le travail de la couture, oui. D'assembler oui. Et de rapiécer justement des morceaux de peau ensemble.
Oui, c'est Fabien ça, Médard. Avec des tendons probablement, donc qui sont des éléments de liage extrêmement robustes.
Hé, tu vois ce que je vois? Belle soirée pour une balade, hein?
Belle soirée pour une balade.
Alors, demain c'est la lessive, plus rien à se mettre, hein?
Plus rien à se mettre, exact.
Hey, où ce mec se fout de nous? Il lui manque une bonne case, hein?
Tes vêtements, vite, vite! Tu n'auras pas besoin de vêtements.
France Culture, Eureka, Natacha Triou.
16h12 sur France Culture, nous parlons de l'invention du vêtement avec nos deux invités, Sandrine Bonnardin et Fabienne Médard. Et nous parlons du travail de la peau et de la fourrure, nous venons de l'évoquer à l'instant. C'est dans cette adaptation au climat qu'on retrouve les origines du vêtement, Sandrine Bonnardin?
Oui, très, très, très probablement. Moi, je ne vois pas d'autre raison que ces données climatiques, en fait, en tout cas, c'est vraiment, en corrélant l'ensemble des données archéologiques, il y a vraiment, je pense, une apparition conjointe des deux, hein, vraisemblablement.
Oui, se protéger contre le froid.
C'est pas une question de pudeur, en fait. Il faut quand même se rendre compte de ça.
Oui, c'est-à-dire que on peut se demander aussi, est-ce que l'invention du vêtement est liée à l'invention de la pudeur?
Je ne veux pas trop m'engager sur ce terrain-là, mais a priori, non.
En tout cas, on peut replacer le contexte aussi historique. À ce moment-là, on a quand même une population d'hommes et de femmes néandertaliens qui vont un peu plus au nord. C'est aussi à ce moment-là que ces hommes et ces femmes doivent se protéger du froid.
Bah, disons que se protéger du froid, c'est juste naturel, parce que sinon c'est la mort assurée. Donc tant que les hominidés étaient dans un biotope à bonne température pour vivre sans, je pense que le vêtement ne s'est pas imposé en soi, peut-être des protections pour les voûtes plantaires, mais pas se couvrir le corps si on n'en a pas besoin. Pour se protéger du froid ou des éléments, pas trop l'intérêt.
Sandrine Bonnardin, est-ce qu'on sait à partir de quand l'être humain a commencé à tanner des peaux?
Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, en archéologie, à partir de plusieurs types d'analyses, la fabrication des objets, l'étude de la morphologie, l'étude des traces d'usure aussi, encore bien conservées sur la surface des outils en pierre, on est parvenu au fil du temps à identifier un type d'outil qui aurait servi au tannage des peaux, c'est le grattoir, qui a peut-être été déjà mentionné sur votre antenne par d'autres spécialistes. C'est un outil en pierre, donc un outil massif qui tient dans la main et qui est taillé par retouche sur un des bords de façon à faire un petit tranchant, on va dire, convexe. Et ce tranchant convexe était appliqué donc sur les peaux, disposées plus ou moins à plat. Et on venait frotter, en fait, les peaux pour les assouplir, mais aussi pour enlever tout ce qu'elles contenaient, quoi. Et ça, ces outils-là, alors, je suis pas forcément la plus spécialiste dans ce domaine, mais ça a plusieurs centaines de milliers d'années, je pense. Donc, cet instrument-là a été inventé très très tôt dans l'histoire de l'humanité, bien avant le paléolithique supérieur en Europe, en tout cas.
Sandrine Bonnardin, donc on a des vêtements avec une fourrure qui ont cohabité avec des vêtements tannés, c'est ça?
Alors, peut-être que Fabienne saurait mieux répondre que moi, mais moi je pense que c'est le cas, effectivement. Hein.
Fabienne Médard.
Mais en fait, la fourrure ou la peau rasée, c'est la même chose. Donc on tanne aussi les peaux
non, mais,
pour les fourrures.
Le travail, en tout cas, de conservation des peaux pour éviter leur putréfaction, comment dire.
Oui, il faut les écharner, effectivement, très proprement, pour retrouver la surface interne de la peau, hein. Propre, sans chair, sans graisse, etc. Et ensuite, il faut mettre un produit tannique. Donc, dans la nature, on en trouve plein. Ça peut être de l'écorce de chêne, ça peut être de l'ocre dans les sépultures paléolithiques. On a retrouvé des traces d'ocre. Alors, c'était pas forcément l'ocre qui avait servi à tanner les vêtements, mais c'est aussi un produit asséchant. Donc, il y a de fortes chances pour qu'on ait utilisé l'ocre pour tanner et assécher les peaux. Ensuite, de les assouplir, de les couper, de les coudre pour habiller.
Alors, est-ce qu'on peut... Certes, l'ethnologie, hein, ce n'est pas l'archéologie, mais dans cette période glaciaire, est-ce qu'on peut imaginer que ces vêtements ressemblaient à ceux qu'ont pu porter les Inuits?
Alors... C'est toujours délicat de faire
c'est
des
pour ça
ponts.
Que je, c'est pour ça que je prends voilà, c'est ça, des les, pincettes, précautions, mais... les précautions nécessaires.
C'est délicat de faire des ponts entre l'ethnologie et l'archéologie, mais toutefois, ça nous donne quand même de sérieuses pistes. Et effectivement, on peut imaginer quelque chose, par exemple, quand on regarde les costumes inuits hein, du siècle du 19e, etc. Il y a de fortes chances pour qu'on ait eu quelque chose... De cet ordre-là, exactement pareil, je ne m'avancerai pas jusque-là. Mais parce qu'il y a le poids de la culture, il y a tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on n'arrive pas à percevoir, hein, qui est d'ordre peut-être religieux. Mais oui, quelque chose dans ce goût-là. Quoi.
Sandrine Bonnardin.
Oui. Ah, je n'ai vraiment. La réponse de Fabienne est parfaitement pertinente. Je n'ai rien de plus à ajouter. Je trouve que c'est effectivement là, il faut vraiment rester très 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 prudent dans les données parce que les populations que nous étudions n'ont pas vécu, n'ont pas les mêmes structures sociales, même la même organisation politique, les mêmes codes, les mêmes rites. Tout ce qui peut générer des productions différentes. Donc, en fait, on essaie d'être toujours de travailler sur ce qu'on appelle les faits archéologiques, c'est-à-dire ce qui peut être une preuve, ce qui constitue une preuve. Et en l'absence de preuves, on reste toujours très très prudent. Donc, on utilise les données ethnologiques plutôt pour nourrir de nouvelles questions ou de nouvelles hypothèses, mais en nuançant toujours notre propos de façon à rester vraiment scientifique et à donner la bonne information au public.
Oui. sur ces faits archéologiques, hein, maintenant qu'on a pris toutes ces précautions, en effet, sur ces analogies douteuses, mais en tout cas sur les faits archéologiques, nous n'avons aucune trace de personne avec un costume complet au paléolithique.
C'est bien, Sandrine, tu sais peut-être mieux que moi, mais de mémoire, je ne connais rien qui soit complet.
Voilà. Eh bien non. Tout à fait. Rien du tout. Non. On a vraiment, pour le paléolithique, c'est-à-dire pour toutes les sociétés qui ont concerné ces communautés chasseurs-cueilleurs de notre histoire humaine, il n'y a pas un seul individu qui, à ce jour, ait été retrouvé avec une panoplie vestimentaire complète, bien conservée. Et non, c'est plus tard. La découverte que mentionnait Fabienne Médard au tout début de l'émission, c'est-à-dire la découverte de l'homme de Tsi, est une découverte beaucoup plus tardive, puisqu'elle concerne les sociétés dites néolithiques, c'est-à-dire les sociétés postérieures au paléolithique, les sociétés agricoles, on va dire. Et cette découverte remonte à 3400 avant Jésus-Christ. Donc on est bien, bien loin dans le temps.
Conservé pendant des années par le froid, voici le corps d'un homme mort il y a sans doute plus d'un siècle. Partiellement nu, l'homme semble être décédé dans des circonstances dramatiques, puisqu'il porte des traces de blessures à la tête et dans le dos. Quelques indices pourraient mettre les chercheurs sur la piste de son origine. Il portait un pantalon de cuir dont le bas était rempli de foin pour le protéger du froid. Ses pieds étaient enveloppés de lanières de cuir et il tenait à la main une hache artisanale. Les spécialistes de la montagne sont partagés. Certains pensent qu'il serait mort il y a près de 500 ans. D'autres jugent invraisemblable qu'il ait pu rester aussi longtemps prisonnier des glaces. Le corps a été transporté à l'Institut médico-légal d'Innsbruck. L'autopsie me permettra d'en savoir plus sur cet alpiniste d'un autre siècle.
La momie d'Otzi, hein, dont on parlait, oui. Découverte en 1991. Alors ça, c'est une découverte exceptionnelle, Fabienne Médard.
C'est unique. C'est juste unique. On n'a rien de mieux et rien d'autre.
Alors pourquoi plus précisément ?
Voilà, il est unique parce que enfin on a un individu du néolithique avec toute sa panoplie, habillé, bonnet, jambière, chaussures, cape. Alors là, je mets un petit bémol, hein, je m'en expliquerai plus tard. Ses flèches, sa petite boîte de produits médicamenteux. Enfin, il a tout. Et son couteau, son petit poignard, l'étui du poignard qui est en tilleul. Enfin, je veux dire, c'est inespéré de trouver ça.
Il est si bien conservé qu'au départ, on a cru qu'il s'agissait d'un alpiniste mort de froid.
Oui, c'est ça. Il est tatoué dans le dos. Enfin, je veux dire, c'est une mine d'or pour nous. Hein. On a même, avec les analyses qui ont suivi, pu déterminer ce qu'il avait mangé, exactement d'où il venait, de quelle vallée il venait, etc. Donc après, il y a eu les hypothèses les plus folles sur son décès en altitude. Est-ce qu'il a été poursuivi, assassiné, etc. Bon, après, on peut tout imaginer. C'est plutôt amusant, enfin, vu d'ici. Mais en tout cas, du point de vue du vêtement et du costume, c'est inestimable.
Alors l'homme d'Otzi, on l'a évoqué, on en parlait la semaine dernière dans Eureka, hein, sur l'invention des antidouleurs. Ces tatouages sont aussi interprétés, hein, comme une forme primitive d'acupuncture. Ça fait partie des hypothèses. Aujourd'hui, nous parlons du vêtement et cet homme d'Otzi. Sandrine Bonnardin, cette mine d'or que sont ces vestiges de vêtements, qu'est-ce que nous apprend l'homme d'Otzi sur ces vêtements ?
Mais qu'au néolithique, en montagne, en haute montagne, les hommes partaient munis d'une panoplie parfaitement adaptée aux conditions climatiques de ces topographies perturbées, qu'ils partaient parfaitement munis de tout un assemblage de vêtements. Et les recherches qui ont été menées, notamment sur les chaussures de Tsi, ont démontré qu'elles étaient tout aussi efficaces que les chaussures que l'on porte lorsqu'on veut faire une grande randonnée en haute montagne. Et de même que l'ensemble des vêtements qu'ils portaient lui ont permis, en tout cas, de survivre à haute altitude, à plus de 3400 mètres d'altitude, pendant plusieurs jours d'affilée, hein. C'est un manteau de fourrure, un pagne, peut-être un vêtement de pluie, des jambières, un bon bonnet bien chaud.
Un bonnet en peau d'ours
magnifique. En plus, c'est un vêtement qui si bien conservé que les chercheurs ont pu identifier qu'il avait été assemblé de peau animale aux différentes couleurs. On a pu reconnaître que le manteau portait en fait un motif de bande verticale de peau de fourrure blanche, on va dire, enfin beige, et de fourrure noire, ce qui est le summum quand même de la sophistication néolithique. Non, c'est fabuleux quand même ce qui a été retrouvé. Hein. C'est vraiment une des plus magiques découvertes du XXe siècle, en fait. Hein.
Oui, il y a 5300 ans déjà des chaussures d'alpinistes. Fabienne Médard, vous évoquiez aussi une cape.
Oui, parce qu'en fait, cette cape de pluie, cette fameuse cape de pluie en herbe, comme on dit, donc sans doute assemblage de graminées, selon une technique qui est bien connue au néolithique pour faire toutes sortes de choses, pas que des vêtements, elle était fragmentaire et... je ne suis pas 100% sûre que tout le monde s'accorde à dire que c'était une cape. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas m'avancer plus loin sur ce sujet. Sandrine, tu as des infos,
des peut-être, éléments de réponse, des éléments là-dessus sur cette...
Alors effectivement, il y a une petite, il y a deux hypothèses actuellement au sujet de cet objet qui donc effectivement est fragmentaire. Donc ça rend l'argument difficile. Donc si ça n'est pas une cape de pluie, l'autre hypothèse qui a été formulée, ce serait un tapis en fait une natte en fait sur laquelle il aurait pu dormir pour se reposer. Donc c'est vraiment pour l'instant ce sont les deux seules hypothèses qui ont été formulées à ce sujet. Voilà, mais bon, ça ne l'a pas empêché, si c'était bien une natte, de s'en couvrir la tête en cas de mauvais temps.
Donc s'enrouler dedans.
Voilà, s'enrouler dedans. Donc, bon an, mal an, on n'est pas... Voilà.
Oui. Le cas de cette momie, l'homme d'Otzi, on le retrouve sous un glacier des Alpes en Italie. Il est dans une situation idéale pour la conservation.
Ah oui.
C'est tout ce que peut rêver de mieux.
C'est ça. Il est dans la glace. Donc, voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a retrouvé, de fait. Maintenant, avec la fonte des glaces, malheureusement, mais on va peut-être en trouver d'autres.
D'autres momies,
d'autres éléments. Voilà, il y en a eu un autre qui a été trouvé en Suisse. Je ne sais plus comment on s'appelle, Schnidi. Je crois qu'ils l'ont surnommé Schnidi. Mais le corps n'y est pas. On n'a que des éléments. Carquois, arc, fragmentaire. Donc il n'est pas loin, mais on ne l'a pas encore trouvé.
Alors on parle de cette garde...
Même période, hein, plus ou moins.
Mais alors dans cette garde-robe du paléolithique, puis on arrive là doucement, on parle de millénaire, mais on arrive vers le néolithique. Qu'est-ce qu'on trouve, que contenait la trousse à couture du
Alors le néolithique, c'est là on passe vraiment dans un autre univers, puisqu'on a un changement climatique majeur avec la fin de la glaciation. Donc on a cette transition mésolithique où le climat se réchauffe, donc le couvert végétal change, la faune change, on s'adapte, hein, comme on a toujours fait, donc on va chasser d'autres espèces et les instruments de chasse vont changer. On n'est plus sur des armes de jet à longue distance comme le propulseur. On a des arcs, des flèches pour les couverts boisés. Donc là, évidemment, le vêtement va certainement évoluer. Changer, s'adapter. On a peut-être besoin d'être couvert un peu moins chaudement aussi. Néanmoins, le Otzi dont on parle là, qui est de 3003-3004 avant Jésus-Christ, il est quand même habillé tout en peau.
Alpiniste,
mais peut-être pas que alpiniste. Peut-être que encore à cette époque, on est au néolithique récent, les hommes s'habillent encore majoritairement en peau. Je vais juste décaler un petit peu, c'est-à-dire que on a déjà de l'activité textile à cette période-là. On en a même un peu avant, on en a les traces. J'insiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais on en a les traces dès le néolithique moyen, ancien moyen. Mais quant aux costumes, mes recherches en tout cas m'ont amené à comprendre que l'activité textile n'est pas suffisamment développée encore à cette période pour habiller tout le monde. Et que le choix se porte encore sur de la peau, je le pense. Voilà, c'est, on va dire, je le pense, c'est une hypothèse, c'est la mienne. vers le néolithique final, on a de plus en plus de métiers à tisser dans les villages. On le voit sur le sol des habitations, quand on retrouve, preuve indirecte, des poids de tisserands. Et donc, il semblerait qu'à la fin du néolithique, effectivement, le tissage devienne une activité beaucoup plus banale, on va dire, entre guillemets. Et il est possible qu'à ce moment-là, on commence à s'habiller avec du tissu.
Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu tuer trop de bêtes pour...
Mais il y a ça, effectivement. C'est que habiller tout le monde avec des peaux, ça veut dire tuer les animaux. Donc, effectivement, on ne les tue pas pour rien. On mange la viande, on réutilise les tendons, on utilise la corne, certainement, pour faire de la colle et de l'outillage. Mais s'il y a une poussée démographique, comme il semble y en avoir eu une vers la fin du néolithique, là, je pense qu'il faut penser autrement. C'est-à-dire qu'il va falloir subvenir à ses propres besoins sans abattre la faune environnante qui peut, elle, être utilisée autrement, notamment avec l'élevage. On ne tue plus les bêtes, on utilise le lait, les sous-produits animaux, qui nous permettent de durer plus longtemps. Parce qu'un animal abattu est un animal qui ne va pas servir longtemps.
Sandrine Bonnardin, sur ce développement de l'activité textile.
Oui, alors je converge tout à fait sur les arguments qu'a énoncé Fabienne jusqu'à maintenant. Effectivement, avant la fin du néolithique, on peut pas vraiment identifier, enfin, on peut pas vraiment dire, être certain que les hommes ont commencé à s'habiller avec des vêtements en fibres végétales, même s'ils cultivent des fibres végétales ou s'ils ramassent dans l'environnement sauvage, on va dire, des fibres végétales depuis des millénaires déjà. Simplement, voilà, la domestication des plantes a été, notamment pour l'utilisation, la fabrication de cordelettes ou de bobines de fil aptes à fabriquer des vêtements. C'est quelque chose qui s'est implanté, on va dire, qui s'est développé sur le temps long. Et vraisemblablement, n'en a-t-on pas produit en quantité colossale dès le début du néolithique. Effectivement, voilà. Encore une fois, on s'arrête vraiment sur des preuves et des preuves de vêtements en fibres végétales avant la fin du néolithique, on n'en a pas. Voilà. On espère une nouvelle découverte.
Pourtant, Fabienne Médard évoquait des traces justement de cette activité textile.
Oui.
Quelles sont ces traces ?
On a les preuves indirectes qui sont l'outillage de production, c'est-à-dire les poids de tisserands et les fusaïoles pour fabriquer du fil avec un fuseau. On a des restes textiles également dans des milieux où ils se conservent. De nouveau, on est... Pour ce qui est de notre Europe à nous, c'est plutôt l'Europe occidentale, avec le domaine lacustre, nord de l'Italie, est de la France, Allemagne, Autriche, etc. Mais à cette période-là néolithique, les sols qui ont permis la conservation des textiles ne conservent pas les matières animales. Nous n'avons pas de cuir, nous n'avons pas de laine. Donc, on est tenu à ce que l'on trouve, hein, c'est-à-dire des textiles tissés en matière végétale. Du lin, probablement de l'ortie aussi, même si au microscope c'est assez difficile de faire la différence sur du matériel ancien. Voilà, donc on en a, mais c'est pas pour autant qu'il servait à habiller.
Ces hommes. amulette céleste pendue à ton cou. Ma grégrise sans faute, c'est ma fête, j'en suis.
Parures secrètes d'Arthur H à 16h35 sur France Culture, car nous parlons de parures secrètes, ou plus exactement de l'origine et de l'invention du vêtement avec nos deux invités. Sandrine Bonnardin, enseignante-chercheure à l'université Nice-Côte d'Azur et maître de conférences en archéologie de la préhistoire, spécialisée sur le néolithique, et avec Fabienne Médard, docteur en archéologie préhistorique, spécialiste des matériaux organiques et des textiles anciens. Alors nous parlions un instant du développement du textile et du textile végétal. Pour commencer, est-ce qu'on sait à quand remonte l'invention du vêtement tissé? Fabienne Médard.
Alors, une fois encore, on en revient au basique. On ne parle que de ce que l'on trouve. Des vêtements tissés habillant des corps, on en a dans les tourbières de Scandinavie, dès l'âge du bronze. Là, on a des jupes, on a des hauts, on a des capes, on a vraiment des vêtements. Pour le néolithique, on a des fragments de tissu dont on ne sait pas exactement à quoi ils pouvaient servir. Alors il y a des traces de couture, il y a des décors, parfois très délicats, mais est-ce qu'ils servaient à habiller? Honnêtement, jusqu'au néolithique final, ou en tout cas jusqu'au début du néolithique final, je n'en suis pas convaincue. Néanmoins, il y a tissage, et il y a du très beau tissage, et il y a du très beau filage. Voilà, alors, est-ce que c'était des éléments d'échange? Est-ce que ça avait une valeur sociale, par exemple pour un personnage important, etc. La chose que moi je peux dire, c'est que dans les habitats néolithiques de cette époque, sur les périodes anciennes, il y a peut-être un métier à tisser dans le village, on va dire, dans un village de, je ne sais pas, 10, 15 maisons. Et qu'au néolithique final, eh bien, il y en a peut-être 5, 6, 7. Donc il y a vraiment un changement au niveau de cette activité qui est peut-être une activité élitiste au départ, c'est-à-dire que tout le monde ne savait pas tisser et que c'était peut-être un savoir réservé qui devient, qui se démocratise en fait avec le temps. Après, on a l'apparition du métal à la fin du néolithique, le travail de la métallurgie, et il est possible que ce savoir-faire textile, qui était peut-être une chasse gardée, eh bien perde son importance au profit de la métallurgie, qui elle devient un véritable artisanat de pouvoir, entre guillemets.
Alors Sandrine Bonnardin, pour réagir à ce que vient de dire Fabienne Médard, qu'est-ce qui nous fait dire que ce savoir-faire textile pouvait être réservé à une élite?
Alors tout simplement le peu de témoignages dont on dispose pour identifier les débuts de cet artisanat. La rareté, souvent en préhistoire, alors, ça peut être lié à des conditions de conservation, bien sûr, on l'a déjà évoqué, mais la rareté est aussi on va dire, en généralité, un bon indice de la valeur accordée aux choses. Donc, il est vraisemblable qu'effectivement, l'activité textile était pratiquée pour des personnes importantes. Et on sait qu'au néolithique, les différences sociales vont se marquer de plus en plus. Certains archéologues, d'ailleurs, militent en faveur d'une hiérarchie sociale vraiment... Déjà, plus qu'en germe dès le début du néolithique, c'est-à-dire en Europe, grosso modo 6000 avant Jésus-Christ, 5000 avant Jésus-Christ en fait. Hein. Donc, il est vraisemblable qu'au sein des petites communautés villageoises qui ont peuplé petit à petit l'Europe il y a 7000 ans de ça à peu près, existaient des personnages dont le statut était un peu plus important que les autres. Et c'est peut-être à eux qu'ont été réservés les premiers morceaux de tissu, on va dire. Voilà, c'est...
Un autre élément, hein, Fabienne Ménard, on peut peut-être rappeler quelles sont les étapes pour fabriquer un vêtement, un tissu, un habit en tissu. C'est une activité élaborée.
Oui, enfin c'est ça, c'est pas banal du tout. En termes de processus opératoire, c'est extrêmement long, ça demande aussi du savoir-faire. Donc, si par exemple... Parlons de ce que l'on a. On a des textiles en lin au néolithique qui sont d'ailleurs tissés en petite largeur. Et ça, c'est aussi un indice. On ne s'habille pas avec 15 cm de large. Mais voilà, on parle du lin. Donc, c'est-à-dire que le lin, il faut le semer. Ensuite, il faut protéger les linières parce que ce sont des plantes quand même assez sensibles aux prédateurs, hein, petits rongeurs, etc. Ensuite, une fois que la plante est mûre, eh bien, il faut la récolter. Ensuite, il faut extraire la filasse de sous la tige parce qu'elle se trouve sous l'écorce de la tige de lin. Ensuite, il faut, donc, on l'extrait par ouissage, on fait tremper les tiges de lin dans de l'eau pendant un certain temps, ne pas aller trop loin pour ne pas détruire la fibre non plus. Ensuite, il faut la faire sécher, il faut la peigner, il faut la débarrasser des dernières impuretés, ensuite il faut la filer. Donc là, on en est à l'étape du fil. Une fois qu'on l'a filé, tous les tissus néolithiques que l'on a sont faits de fils retors, c'est-à-dire qu'on a deux brins pour faire un fil. Donc on file une première fois et on file dans l'autre sens une deuxième fois à partir de deux fils. Et ensuite, il va falloir le tisser. Donc imaginons bien...
On n'en est que là.
On n'en est que là. On n'est pas habillé. Hein. Donc une fois qu'on a le tissu... Effectivement, si on veut en obtenir un vêtement, alors il va falloir encore le transformer, le coudre, le mettre en forme, on va dire. Voilà, donc je pour aller plus loin, mais je vais pas m'engager sur le coupé cousu parce que là, on va déborder. Mais disons que les étapes opératoires qui vont de la plante jusqu'au vêtement... C'est énorme. Donc, c'est un travail qui a de la valeur. Et donc, probablement dans lequel on a mis du sens.
Les habits en sont donc des objets précieux avec une telle élaboration.
Oui.
Alors, on parlait de tissage à partir de fibres textiles, on a évoqué le lin, l'ortie, qui n'a pas besoin d'être cultivé. Et puis, vous l'avez dit, hein, Fabienne Ménard, on a aussi les fibres animales dont on n'a pas de traces, mais est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'apparaissent les fibres animales telles que la laine?
Eh bien, la laine, c'est ça. Alors là, la laine, on peut en discuter, elle brille par son absence sur nos sites à nous, néolithiques. Néanmoins, il y a de l'élevage et il y a des ovicapridés, moutons, chèvres, etc. Donc il y a de la laine sur ces bêtes, forcément. A-t-elle été utilisée? Peut-être, mais on n'en a pas la trace. Toutefois, il faut aussi mettre ça en regard avec les données archéozoologiques qui montrent que au niveau du squelette, hein, les ovicapridés se transforment, c'est-à-dire que le squelette se modifie, les bêtes ont l'air d'être plus grandes, et il y a de fortes chances pour que On est déjà joué à ce moment-là aux apprentis sorciers avec la sélection pour obtenir des animaux avec une toison à pousse permanente. C'est-à-dire que les premières bêtes, les bêtes primitives, elles perdent leur poil, on ne les tond pas. Donc si on veut obtenir la laine, il faut l'arracher à dos. Voilà. Ou alors elles le perdent dans la nature, tout simplement, sur les buissons épineux, etc. Donc on est encore dans un travail de cueillette, presque, une cueillette de la laine. Voilà, donc il faut mettre tout ça en perspective avec l'élevage et avec les transformations qui sont liées aux animaux, justement.
Sandrine Bonnardin, sur ce textile animal.
Oui, alors effectivement, la laine au néolithique, c'est toute une aventure pour démontrer son utilisation. Mais des dernières recherches menées par les spécialistes des ossements animaux, ce qu'on appelle les archéozoologues, tentent à montrer que les populations néolithiques pourraient avoir commencé à récupérer un peu de laine sur la peau des moutons ou des chèvres à partir de 4000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus ou moins le milieu du néolithique en Europe. Au-delà, effectivement, les animaux ne portaient pas encore, enfin portaient des toisons très très discrètes, des poils très très courts, qui ne pouvaient pas être utilisés tels quels. Mais il semblerait, à partir de l'analyse des ossements retrouvés dans les sites archéologiques européens, les animaux aient connu effectivement des transformations morphologiques à partir de 4000 avant Jésus-Christ, plus ou moins, et des transformations qui auraient permis provoquer des poils plus longs sur le corps des animaux. Ça, c'est un indice, on va dire, indirect du commencement, du tout début, vraiment, de l'utilisation de la laine. Un autre indice indirect se voit à travers l'étude des poteries. Sensiblement à la même époque, les poteries vont être cuites dans des fours particuliers et vont subir des traitements aussi de polissage ou de coloration ou de... Je ne trouve plus le terme associé, mais enfin, voilà, vont subir des techniques particulières, assez sophistiquées, et on soupçonne que de la laine a été utilisée pour provoquer une certaine glaçure ou provoquer l'imperméabilisation des récipients encore chauds sortis du four ou entre différentes étapes de cuisson. Donc en fait, ce sont des témoignages indirects mais qui semblent converger pour dire que les populations au néolithique, plutôt vers 4000 avant Jésus-Christ, ont effectivement commencé à obtenir de la laine de l'animal. Et c'est un des produits secondaires après le lait, après les peaux, après les ligaments, la viande, les cornes, etc., les dents. Un des produits secondaires que les agriculteurs, les agro-pasteurs vont récupérer, un des fruits de la domestication, c'est notamment ça, l'obtention de la laine.
Ce qui compte pour moi dans les vêtements, c'est pas leur forme, ni leur matière, ni rien, c'est leur signification, c'est ce que ça veut dire.
France Culture.
Ce qui me semble correspondre vraiment à l'époque, et de voir autour de moi des
Eureka.
Des choses sorties de la préhistoire, quoi.
Natacha Triou.
16h47 sur France Culture, nous parlons de l'invention du vêtement avec nos deux invités, Fabienne Médard et Sandrine Bonnardin. Alors on trouve des traces d'ornementation dans les sépultures du paléolithique et du néolithique. On trouve ces coquillages troués, brodés sur les vêtements. Et en l'occurrence, on trouve le spondyle. Un coquillage, ça c'est assez étonnant, Sandrine Bonnardin, le spondyle, un coquillage qui vit tout de même à 2 à 50 mètres de profondeur.
Tout à fait. Alors c'est un coquillage merveilleux que l'on trouve encore en Méditerranée orientale, dans le bassin égéen, un petit peu sur nos côtes, mais il est très rare maintenant à cause des problèmes climatiques. Ce coquillage est merveilleux parce qu'il est doté en fait il est une matière première magnifique. Il a des grosses valves. Il a une couleur rouge violacée qui a probablement plu aux habitants de l'époque. Et de ce coquillage que les populations probablement ramassées sur les rivages égéens autour de 5500 avant Jésus-Christ, eh bien, on a tiré une petite panoplie d'objets de parure qui n'a pas été partagée par tout le monde, vraisemblablement, qui a été surtout peut-être captée ou donnée qu'aux membres importants de la communauté. Car lorsqu'on les trouve, lorsqu'on trouve cette petite panoplie d'objets qui a été faite à partir de ce merveilleux coquillage, on se situe dans des sépultures toujours un peu particulières, c'est-à-dire vraiment avec pas forcément dans l'architecture de la tombe, hein, ce sont des tombes comme les autres, mais vraiment avec un matériel particulier, beaucoup plus d'objets. Ça peut monter à 1000 objets dans une tombe. Des poteries, des armes, etc. Et donc, ce coquillage a attiré l'attention, probablement par ses couleurs, mais aussi par les capacités, tous les produits que l'on pouvait tirer de ces coquilles, de ces valves très épaisses.
Il a quand même fallu, hein, pour les hommes et les femmes du Néolithique, plonger en apnée pour venir décrocher ce coquillage pour ornementer justement les parures.
Oui,
ça dit quand même quelque chose de l'importance de ces objets, il me semble, Fabienne Médard.
Oui, alors en termes d'ornementation, moi je ne suis pas aussi qu'Alexandrine pour tout ce qui est coquillage. J'ai juste en mémoire un petit fragment de tissu qui a été découvert en Suisse, qui est orné, c'est-à-dire que dans le tissage, on a inséré des noyaux de cerises, de cerises sauvages évidemment, qu'on a poli. Et qu'on a glissé à l'intérieur des fils pour orner un textile, parce que là on est sur du textile vraiment. Alors une fois encore, vêtements ou pas, je ne sais pas, mais on est dans un type d'ornementation qui est assez raffiné finalement aussi.
Sur ces parures qui apparaissent déjà raffinées, Sandrine Bonnardin, est-ce que ces parures ont eu un rôle social?
Oh, vraisemblablement, pour les corpus les plus importants dont on dispose, c'est-à-dire les corpus néolithiques, on peut déterminer que certaines catégories d'objets ont été utilisées uniquement soit par les femmes, soit par les hommes, et ont échappé complètement aux enfants. Il y a véritablement un contrôle de la circulation de ces objets au sein des communautés. Certains objets sont réellement associés au genre masculin ou féminin. Et voilà.
Et ça veut dire que ces objets sont déjà des cartes d'identité, le vêtement comme statut, de l'âge, du sexe.
Ah mais complètement, complètement. Ça, quand on peut faire un rapprochement entre ces objets et des individus humains retrouvés dans des sépultures, voilà, les anthropologues ont fait leur travail de détermination de l'âge et du sexe des squelettes présents. On peut véritablement identifier, faire le rapport entre le féminin, le masculin et ces ornements du corps.
Vous avez un exemple? Excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce que vous auriez un exemple justement de cette distinction homme, féminin, masculin dans ces parures?
Tout à fait, tout à fait. Bah, ça touche justement ce fameux spondyle. Dans ce spondyle, à l'époque, donc vers 5500 avant Jésus-Christ, on va commencer à faire, on va tailler les valves pour faire de grands objets. De longues perles en forme de tube que l'on portait autour du cou. Mais les plus grands objets faits à partir de ce coquillage sont des boucles de ceinture, vraisemblablement. Et ces boucles de ceinture sont de deux types. Un type est retrouvé dans les tombes d'hommes, l'autre type est retrouvé dans les tombes de femmes. Alors, je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais l'objet qui est associé aux tombes d'hommes, c'est une sorte de boucle qui se rabattait vraisemblablement sur un système de fermeture d'une ceinture, probablement. Et la boucle de ceinture des femmes était un objet avec deux petites perforations qui devaient décorer le bassin des femmes de l'époque. Et on le retrouve vraiment strictement toujours associé au genre auquel il était réservé. Il y a quelques exceptions, mais vraiment sur plus de 3000 sépultures qui ont été retrouvées en Europe tempérée, depuis l'est du Danube jusqu'aux portes de la Manche, donc un corpus important, un corpus funéraire important, eh bien, Il y a toujours cette récurrence-là qui est de retrouver ces objets associés soit à l'homme, soit à la femme. C'est vraiment un objet magnifique pour les archéologues parce qu'on peut percevoir un peu une dimension, la structure sociale de ces groupes agricoles, en fait, puisque les hommes et les femmes se signalent par des costumes, on va dire, j'emploie des guillemets, différents. Et la parure sert vraiment un rôle à la fois social et culturel. C'est une carte d'identité déjà biologique. Elle indique le genre auquel on se sent appartenir ou auquel on nous associe. Et elle indique aussi la culture à laquelle on appartient. C'est vraiment... alors, j'aime pas trop le terme identité, mais c'est pour résumer, un marqueur identitaire très très fort dès cette époque néolithique, vraiment.
Fabienne Médard, pour conclure, on peut dire que ces ornementations, c'est déjà un moyen de faire de son corps un corps culturel.
Oui, absolument, c'est identitaire. Oui, tout à fait.
C'est déjà là.
C'est déjà là, sans doute même avant, mais voilà, les évidences parlent petit à petit. Au fur et à mesure qu'on fait des recherches, on découvre d'autres éléments. Il y a une chose juste dont on n'a pas parlé en termes de textile néolithique, c'est tout ce qui est, alors, qui appartient aussi à la panoplie vestimentaire, mais de manière beaucoup moins prestigieuse, je pense. C'est tout ce qui est production en comment je vais vous dire ça? Ça s'appelle le libère, hein, c'est la sous-écorce des arbres, libère du tilleul, du chêne, etc. Grâce auxquels les populations du néolithique ont produit énormément de textiles au sens large. C'est-à-dire que ça va de l'objet utilitaire qui peut être un filet, un étui, une cape, effectivement. aux chapeaux, aux sandales, etc. Donc, qui font aussi partie du vêtement et pour lesquels on a là, pour le coup, plusieurs évidences dans notre néolithique d'Europe tempérée.
Et donc, d'une certaine chapeau, façon...
Chapeau, chaussures, capes, des choses comme ça qui peut-être venaient couvrir un vêtement en peau à un moment donné, puis un vêtement en textile. Ensuite.
Oui, d'une certaine façon, l'humanité s'est vêtue de chaîne. Merci. Merci beaucoup, Fabienne Médard. Merci, Sandrine Bonnardin. Merci d'avoir remonté le fil de l'histoire du vêtement et de ses origines. Et puisque nous parlons de couture depuis une heure, le mot de la fin revient à Isabelle Adjani.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré aux coudes, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais appliqué. Maintenant je paie l'effet retard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin-chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Sous mon petit pull marine, m'enlacer, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. Avant de toucher le
Merci
fond.
À toute l'équipe de Réka, Alexandra Delbo, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Garance Prima-Anlo, à la réalisation Félix Levacher, aux côtés de Maria Pasquet. Et à la technique aujourd'hui, c'était Élise Leu. Vous pouvez réécouter cette émission à toute heure sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On se retrouve vite pour un prochain épisode de Réka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer.